Les Canuts, première partie, chapitre 8. Dans la soirée, un bruit inquiétant se répandit. Les troupes n'auraient quitté la ville que pour se reformer à l'aide de renforts envoyés des villes voisines. Des gens, arrivés de l'Isère et de l'Ain, affirmaient avoir rencontré des soldats venant de Vienne et de Bourgoin, des bataillons de gardes nationaux accourant de Meximieux, de Trévoux, de Bourg, et allant se concentrer au-dessus de Lyon, sous les ordres du général Roguet. Monsieur Bouvier du Molard, interrogé, n'avait pu nier ces mouvements de troupes. Mais il assurait qu'ils avaient été ordonnés avant la détermination prise par le général Roguet de quitter Lyon et, au sein de la commission ouvrière, il avait juré sur sa tête qu'aucune attaque n'était à craindre de l'extérieur. Néanmoins, le bruit d'un retour offensif des troupes continuait à circuler et prenait consistance. Dans les groupes, sur la place des Terreaux, les ouvriers déjà se montaient la tête. À ces rumeurs grossies de bouche en bouche, et l'on répétait le mot de « trahison ». Marius avait rencontré Nerbollier. L'idée leur vint d'aller, dans la direction du faubourg de Bresse, demander aux gens qui entraient à Lyon de ce côté où s'étaient retirées les troupes et quelle était leur attitude. Ils allumèrent leurs pipes pour chasser les brouillards qui traînaient lourdement sur le Rhône et remontèrent le quai Saint-Clair et le quai d'Herbouville, longeant la promenade plantée de vieux tilleuls. La route était presque déserte. Les moulins, les foulons, les bateaux de plate, amarrés à la rive du fleuve, demeuraient silencieux. Pas un paysan, pas une charrette. Ils poussèrent jusqu'au faubourg. Devant l'une des premières maisons, où se lisait l'enseigne d'un cabaret, un limonier stationnait, attelé à une voiture de roulage couverte de sabâches. À tout hasard, ils entrèrent et se firent servir un pot de vin. Un roulier, la grosse limousine sur le dos et le fouet au cou, buvait avec deux ouvriers puisatiers qui lui racontaient le combat du matin dans le faubourg. « Pardon de la curiosité, » interrompit Nerbollier. « Mais de quel côté venez-vous ? » L'homme répondit. Il était voiturier de son état et venait toutes les semaines d'Ambérieu à Lyon. « Alors, vous avez dû rencontrer les troupes. » Pardi, si je les ai vues. À Rieux, où je me suis arrêté pour faire reposer mon cheval, le village était plein de soldats. Lentement, il répéta ce qu'il avait appris, à l'auberge, d'un caporal avec lequel il avait trinqué. Les troupes avaient d'abord fait halte à la Pape. Puis, sur de nouveaux ordres, elles s'étaient remises en route, et le quartier général avait été établi à Rieux, avec des avant-postes à Caluire et à Montessuie, en prévision d'une attaque des insurgés. Quant au mouvement de troupes dirigé sur Lyon, les soldats en avaient entendu parler, par leur chef, mais ne savaient rien de précis et pensaient que le général Roguet attendrait des ordres. Eux ne demandaient pas à rentrer de sitôt. Ils semblaient là et découragés. Les pauvres diables. À ce moment, on entendit sur la route le galop d'un cheval lancé à toute bride et se dirigeant vers Lyon. Nerbollier courut à la porte. « C'est une estafette !» dit-il. Derrière lui, les buveurs s'étaient hâtés, mais le cavalier et sa monture étaient déjà loin. L'homme portait une blouse bleue, pourtant il n'avait pas l'allure d'un paysan. « Je vous dis que c'est une estafette !» répéta Nerbollier. « Il faut savoir !» Vite, il paya, salua et repartit avec Marius. La nuit était close, lorsqu'ils arrivèrent place de la Comédie. Devant la grille de l'hôtel de ville, à la lueur des réverbères, ils virent un domestique tenant par la bride un cheval, le même qu'ils avaient vu passer au faubourg de Bresse. Le faux paysan était donc venu remettre au préfet une communication du général Roguet et n'était pas encore sorti. Marius voulut prévenir la commission. Tandis qu'il faisait le tour de l'hôtel de ville pour entrer par la place des Terreaux, Nerbollier, resté à faire le guet, vit l'homme à la blouse bleue franchir la grille, remonter à cheval et s'éloigner au galop. Il l'avait reconnu. C'était un officier d'ordonnance du lieutenant-général. Presque aussitôt, un roulement de tambour se fit entendre au terreau. Nerbollier crut que le poste de l'hôtel de ville donnait l'alarme. Il courut. Sur la place, la foule inquiète, maintenue par la garde civique, se pressait devant le perron. Monsieur Bouvier du Molard venait de paraître au balcon, entouré, comme le 21 novembre à la Croix-Rousse, de buissons et des chefs ouvriers. D'un signe, il réclama le silence. Puis, à la lueur d'un flambeau, il lut à haute voix une lettre du lieutenant-général comte Roguet qu'il venait de recevoir. Le général donnait l'assurance qu'aucune attaque ne serait entreprise tant que la ville resterait calme. Lui-même avait expédié des ordres à Bourgoin et à Vienne pour faire rétrograder les troupes qui venaient spontanément à la nouvelle de l'insurrection. Il faisait aussi rétrograder un bataillon du 49e de ligne qui s'était avancé de Montbrison à Francheville. Enfin, il souhaitait qu'il n'y eût plus, dans la population lyonnaise, d'autres sentiments que la douleur des événements accomplis et l'ardent désir de prévenir par des concessions mutuelles le retour de si terribles catastrophes. Des bravos accueillirent la lecture de cette lettre. Quelques cris de « Vive l'armée !» poussés par des gardes nationaux se perdirent dans le brouhaha et la foule s'écoula tranquille. La moitié seulement des délégués devait siéger la nuit. Marius alla chercher son père à l'hôtel de ville et tous deux remontèrent ensemble à la Croix-Rousse. Le lendemain, lorsqu'ils redescendirent, la ville avait à peu près repris son aspect habituel. Les visages sinistres avaient disparu. Plus d'hommes armés. On circulait dans les rues, la veille presque déserte. Sur l'invitation du maire, M. Prunel, arrivé en toute hâte de Paris, les magasins et les cafés s'étaient rouverts. Les affaires reprenaient leur cours, la confiance revenait. Sur les degrés de l'hôtel de ville, Martinon et Lacombe, au milieu d'un groupe, parcouraient les journaux du matin, le Précurseur, l'Écho de la Fabrique, la Gazette du Lyonnais, qui contenaient le récit des événements et les commentaient. On disait que la veille au soir, la municipalité avait voté 100 000 francs pour subvenir aux besoins des ouvriers les plus nécessiteux. Des souscriptions pour les blessés venaient d'être ouvertes dans les bureaux des journaux et chez les notaires. Les délégués se remirent à l'œuvre. De concert avec la municipalité, ils s'occupèrent à faire disparaître les dernières traces de l'émeute. Les rues étaient repavées, les débris des barricades enlevés. On remplaçait les réverbères brisés. 10 hommes de garde et une escouade de charpentiers furent envoyés au pont Lafayette pour relever le pavillon de l'octroi qui avait été brûlé. L'inscription « Respect à la loi » fut placée sur la porte et, le soir, les douaniers furent rétablis dans leur bureau. Les jours suivants, les autorités convoquèrent les fabricants pour procéder à la révision des salaires. Jusqu'à la signature d'un tarif complet, débattu avec les délégués des chefs d'atelier, la ville s'engageait à prendre, au besoin, sur la caisse municipale, les fonds nécessaires pour assurer au chef d'atelier le paiement de la différence entre le prix de façon des pièces livrées à la fabrication depuis le 21 novembre et le prix du tarif du 1er novembre. Le dimanche, les théâtres rouvrirent leurs portes. Ce fut la fin de la panique.